port de Rome, orné des différents monuments d'architecture antique et moderne. Tableau de 4 pieds, 7 pouces de large, sur 3 pieds, 2 pouces de haut. C'est le morceau de réception de l'artiste, et une belle chose, c'est un vernet pour le fer et pour la couleur. Que n'est-il encore un vernet pour les figures et le ciel? Les fabriques sont de la touche la plus vraie, la couleur de chaque objet est ce qu'elle doit être, soit réelle, soit locale, les eaux de la transparence, toute la composition vous charme. On voit au centre du tableau la rotonde isolée, de droite et de gauche sur le fond des portions de palais. Au-dessous de ces palais, deux immenses escaliers qui conduisent à une large esplanade pratiquée au devant de la rotonde et de là à un second terre-plein pratiqué au-dessous de l'esplanade. Bon, etc., etc., je raccourcis. Ce morceau est plein de grandeur et de majesté. On l'admire, mais on n'en est pas plus ému. Il ne fait point rêver, ce n'est qu'une vue rare où tout est grand mais symétrique. Supposez un plan vertical qui coupe par le milieu la rotonde et le port. Les deux portions qui seront de droite et de gauche de ce plan montreront les mêmes objets répétés. Il y a plus de poésie, plus d'accidents, je ne dis pas dans une chaumière, mais dans le seul arbre qui a souffert des années et des saisons, que dans toute la façade d'un palais. Il faut ruiner un palais pour en faire un objet d'intérêt. Denis Diderot, le salon de l'année 1767, à mon ami Monsieur Grimm. Métropolitain. Notre émission traitera aujourd'hui de l'aménagement des voies sur berge à Paris, avec Dominique Alba, architecte et directrice de l'atelier parisien d'urbanisme, avec, non pas comme annoncé, le scénographe urbain Jean-Christophe Choblet, qui est en voyage, mais Patricia Pelou de la mission Scène de la Pure, et deux contradicteurs, un qui a été enregistré, l'historien Antoine Picon, et un qui est en direct, le critique Emmanuel Caille. Auparavant, le sociologue Patrick Baudry, que j'ai rencontré il y a 2 jours à Bordeaux, nous parlera de la ville entendue comme une impression sociale, et je vous introduirai tout de suite d'un film sur Norman Foster qui sort cette semaine. Les films sur les architectes contemporains qui sortent en salle sont assez rares. Après le grand succès de La quête de son père Louis Kahn par Nathaniel Kahn, My Architect Son's Journey, l'itinéraire d'un fils, un film de 2003 qui sortit dans 25 salles françaises, après la déception tout de même que fut le Sidney Pollack de 2005, Esquisse de Frank Gehry, sorti dans 10 salles l'année suivante, voici un documentaire sur Norman Foster qui sort cette semaine dans 9 salles. Combien pèse votre bâtiment, Monsieur Foster? How much does your building weigh, Mr. Foster? C'est une question que lui aurait posée l'ingénieur américain Buckminster Fuller à propos d'un de ses chefs-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre de la fin des années 70, le Sainsbury Center. Et c'est le titre du film. Le début en est pathétique. Un homme marche sur une grande étendue de sable gris, une plage peut-être, filmée d'assez haut. Il est seul. Du sable, non, c'est de la neige un peu fondue. Et puis brusquement déferlent des milliers de skieurs de fond dans leur accoutrement coloré. C'est le marathon d'Engadine qui se tient chaque année en mars dans la vallée de Sils Maria en dessous de Saint-Moritz. Gros plan sur les skis, sur les chaussures, la bande-son insiste sur le crissement, le raclement des skis sur la neige et sur le souffle des coureurs. Ça, c'est beau d'ailleurs. Puis, hors de la cohue, voici un homme seul, de profil, en gros plan, qui semble aller plus lentement, avec une certaine douleur. Une curieuse tête rasée dont émane un sentiment de fatigue, un air triste de clown blanc non maquillé. C'est Norman Foster, l'un des marathoniens, 77 ans dans quelques jours, le 1er juin. Il semble là, entêté, courageux, et c'est assez beau, c'est un peu tragique. Produit par sa femme, Elena Ochoa, et par Antonio Sanz, une sorte de courtier d'artiste célèbre qui lui est associé, réalisé par 2 Espagnols, Norberto López Amado, qui est spécialisé dans les campagnes de publicité et dans la vidéo institutionnelle, mais qui a aussi à son actif un long-métrage d'épouvante, et Carlos Carca, reporter, caméraman et réalisateur. Ce film est un scénario de commande, et bien évidemment une hagiographie. Le scénario est de Dejan Cedjic, critique officiel et assez complaisant du milieu londonien, notamment du milieu high-tech, puisqu'il est le gendre de l'ancien associé de Foster, Richard Rogers. Il est par ailleurs directeur du Design Museum. Les témoins gravitent tous autour de la Tate Gallery, dont Elena Ochoa préside le Conseil international, ainsi le philosophe Alain de Botton, les artistes Anis Kapoor, Anthony Caro, Richard Long, Richard Serra et Kai Guoqiang, Antonio Sanz et par ailleurs le commissionneur, c'est-à-dire l'agent de plusieurs d'entre eux, voire de la plupart d'entre eux. Donc on est vraiment en famille. Comme Foster est un être pudique, à vrai dire, et qui n'aime peu s'étendre sur sa vie, notamment sur son enfance dans un milieu assez modeste ou très modeste de Manchester, on n'en apprendra guère plus. Quelques aperçus sur sa jeunesse, on l'accompagne dans une visite de la maison de briques près du pont de chemin de fer, où il vécut dans la fumée des locomotives de l'époque, avec un père prêteur sur gage et une mère serveuse, lui était plus ou moins apprentie. Mais c'est un peu pour la forme, on n'en dit pas trop. L'émotion pointe en revanche quand il évoque la mort de sa première femme, Wendy, en 1989. Elle était morte d'un cancer, et puis son propre cancer à lui, il y a 10 ans, et puis son attaque cardiaque, et puis son statut actuel, on pourrait dire, de survivant à certains égards. On évoque brièvement pour la forme encore la désaffection de la critique lorsque sa production architecturale est devenue plus répétitive, standardisée, mondialisée. Avant la crise, son agence comptait dans les 1500 salariés. Elle en compte encore 500. C'est une multinationale extrêmement impressionnante. On en voit pas mal d'images des bureaux. Une structure multiethnique aussi, c'est tout assez intéressant. Multiethnique par les origines extrêmement variées de ses collaborateurs. Et puis, d'ailleurs, pour patron maintenant, pour président, pour PDG, un architecte d'origine iranienne, je crois, de 48 ans, qui s'appelle Mujan Majidi. Hagiographie, donc, ce film. Et pourtant, il dégage plusieurs charmes, plusieurs qualités. D'abord, la splendeur des meilleures de ses œuvres architecturales. Et après des années où on n'a pas beaucoup aimé Foster, il est vrai que revoir ses œuvres architecturales les plus belles, c'est absolument sensationnel, quoi. Le Sainsbury Center de Norwich, le gratte-ciel de Hong Kong, la cour sous-verrière du British Museum, les aéroports de Stansted, Hong Kong puis Pékin, la rénovation du Reichstag à Berlin, la tour Swiss Re dans la cité de Londres, que le prince Charles rangeait parmi les furoncles, les carbuncles, mais que l'opinion appelle plus familièrement le gherkin, le cornichon, mais qui est pas mal. Les bouches de métro toutes simples de Bilbao, le viaduc de Millau par exemple. Ce dernier est particulièrement bien filmé, avec des nuages de grandes bouffées de brume qui envahissent ses haubans en accéléré, c'est très spectaculaire. Il y a des vues aériennes, beaucoup de vues en hélicoptère, lui-même pilote un hélicoptère, Foster. Donc des vues en hélicoptère, mais aussi des vues, j'imagine, faites avec des instruments d'un autre ordre, des vues en tout cas qui dansent dans l'espace, qui caressent les bâtiments, des vues assez climatiques, très attentives à la lumière, à la brume. C'est très impressionnant et ça aide à se convaincre du grandiose architecte, vraiment du grandiose architecte qu'aura été et qu'est encore quelquefois Norman Foster, incontestablement, à mon avis, un des meilleurs de son temps, un des plus entêtés, un des plus engagés dans son art. Un homme de doctrine aussi, un homme avec une grande continuité dans sa quête d'un monde qui réconcilierait la haute technologie et l'esprit zen, et bien sûr l'écologie. Un souci qui a toujours été le sien, je peux en témoigner pour l'avoir pas mal connu il y a une trentaine d'années, dans des époques où ces questions n'étaient absolument pas à la mode. Un souci qu'il est en train de porter à un haut degré de réalité dans la construction d'une ville durable pour 50 000 habitants appelée Masdar, c'est-à-dire la source, à Abu Dhabi. Entreprise en 2007, prévue pour être achevée vers 2020, avec ses 50 000 habitants. Elle sera la première éco-ville des déserts, on pourrait dire la première éco-ville tout court, et le projet qu'en montre le film est très futuriste et très curieux. Norman Foster est l'un des plus énigmatiques parmi les architectes, des plus solitaires aussi, malgré ses centaines de collaborateurs, avec un visage un peu tordu, très étrange, dont on n'arrive pas à percer le mystère, mais on a vraiment le sentiment toujours qu'il y a un mystère psychologique dans cet homme, et dont émane comme une sorte de moue de tristesse, qu'il a toujours eu, hein, intrigante, une moue de tristesse qui irrigue le film et qui lui confère un autre charme, une fois de plus, bien sûr, un peu de l'ordre du tragique. Le film s'appelle « How much does your building weigh, Mr. Foster ?»« Combien pèse votre immeuble ?» En français, il a été traduit par Norman Foster, « Une vie d'architecte ». Il dure 1h18 et le film est sorti dans trois salles parisiennes, le Majestic, Bastille, le MK2 Beaubourg, qui est peut-être en grève puisque les MK2 sont en grève, le Reflet Médicis et 6 salles provinciales, Clermont-Ferrand, Lille, Nîmes, Rennes, Saint-Martin-d'Hères et Toulouse pour le moment. La pluie par le Paris Jazz Big Band. Et nous allons maintenant à Bordeaux, où j'ai rencontré il y a 3 jours le sociologue Patrick Baudry. Vous avez donc, Patrick Baudry, travaillé sur les attitudes devant la mort, sur les conduites à risque, sur les situations de violence, sur les imaginaires sexuels et les imaginaires ou les images du corps en général, et particulièrement celles de la pornographie. Un livre qui vient de paraître tout récemment, intitulé « La ville, une impression sociale », paraît dans la collection que dirige Jean-Pierre Jeudy, qui est un de vos amis, qui est un philosophe ou un sociologue, ou un anthropologue, un peu comme on voudra. Cette collection s'appelle « L'art de ne pas ». Expliquez-nous pourquoi cette collection s'appelle L'art de ne pas.
Alors, L'art de ne pas, c'est une idée qu'a eue Henri-Pierre Jeudy à partir, et là vous allez m'aider, de
Barthélemy l'écrivain, voilà, de Melville.
L'ouvrage de Melville, ce qui est une forme d'attitude, on pourrait dire, et dans le texte qu'il a rédigé pour cette collection, Henri-Pierre Jeudy dit bien, au fond, que sans céder à une espèce d'angélisme, comme si tout se passait pour le mieux, il faut peut-être aussi résister à une espèce de catastrophisme ou discours catastrophé, je dirais. Et donc, savoir aussi célébrer une sorte d'attitude simple, on pourrait dire zen, si l'on veut, mais une sorte de sérénité qui n'exclut pas éventuellement d'ailleurs une dimension tragique.
La phrase de célèbre de Barthélemy, contrariée en général par « j'aimerais mieux ne pas », c'est « I would prefer not to ». Je préfère, c'est un employé aux écritures qui, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, répond « I would prefer not to ». Vraiment, je ne préférerais pas. Mm-hmm. Alors, je l'ai dit, vous êtes sociologue, mais vous êtes un sociologue un peu particulier, ou, je dirais marginal si on veut, mais surtout un sociologue, je dirais, un peu récalcitrant. Vous ne cessez de critiquer la boutique et le milieu.
Oh, ça fait partie du jeu. Jean Duvigneau, que je cite beaucoup, qui a été une des grandes figures de la sociologie, disait bien dans son livre Introduction à la sociologie qu'on ne fait pas de sociologie sans se demander ce qu'est la sociologie. La sociologie est toujours agitée par un ensemble de discussions, et c'est vrai que quelquefois j'ai pris un ton ironique ou un ton agressif à l'endroit de certaines postures sociologiques, mais qui n'ont certainement pas le monopole d'une vraie scientificité. Il y a des sociologies en vérité, et donc une sociologie qui peut-être est plus anthropologique que par exemple historique ou démographique a parfaitement sa place dans le monde universitaire.
Bon, chez les sociologues ordinaires universitaires, vous critiquez le culte des données, vous critiquez une sorte de prétention à la scientificité. Vous ne croyez pas beaucoup à la scientificité ?
Je peux croire à la science, si vous voulez, c'est-à-dire au fond, à la rigueur, c'est-à-dire à la volonté d'exprimer un propos au travers duquel on tente de ne pas dire n'importe quoi. C'est un des dangers peut-être d'aujourd'hui. Mais ce que je crois, c'est qu'il est illusoire d'opposer, par exemple, science et littérature. Et donc le livre « La vilaine impression sociale » fait une très large place, c'est d'ailleurs, si l'on reprenait le mot courant, de la science sociologique, le terrain de ce livre, fait une large place donc à des artistes, à Édouard Oppert, à François Bon et à Jacques Reda, qui nous apprennent quelque chose, qui nous disent quelque chose du sentiment urbain contemporain.
Les sociologues, en principe, ne parlent jamais d'eux, ils parlent d'autrui. Et en tant qu'autrui, ils entrent dans une catégorie sociale définissable. Vous parlez beaucoup de vous.
Oui, c'est un parti pris hein, dans ce livre. Ce livre se range dans la catégorie des essais, c'est marqué sur la couverture, et cela fait partie, dirais-je aussi, du jeu, et je m'en réjouis, qui est autorisé par Henri-Pierre Jeudy dans la collection donc, qu'il dirige aux éditions Circé. Mais encore une fois, au nom de quoi devrait-on croire que le jeu est quelque chose qu'il faudrait interdire dans l'expression sociologique, et vous voyez, au nom de quoi devrait-on penser que la subjectivité n'est seulement que subjective? L'artiste, s'il nous dit quelque chose, est-ce par une force géniale, n'est-ce pas, qui lui permettrait de se passer de toutes les études, ou est-ce qu'il saisit quelque chose du sens? Finalement, c'est ce travail sur le sens qui est intéressant.
Donc une sorte de sociologie urbaine, mais une sociologie urbaine qui n'est pas celle qui est celle, disons, de l'aventure ou de l'émotion.
Oui, tout à fait. On pourrait dire une anthropologie sensible de la ville, interrogeant finalement ce qui advient dans ce monde de la ville du côté de ce que l'on nomme un peu maladroitement, ou en tout cas ce n'est pas très beau, c'est pas très, très joli comme mot, l'urbain. L'urbain qui, comme le dit Maïté Clavel dans un article paru dans la revue Communication, n'est plus simplement un qualificatif, mais est devenu un substantif. On parle de l'urbain. On continue bien sûr de dire qu'on habite la ville de Bordeaux, de Dreux, de Rome, de Rio ou de Paris. On ne dira pas qu'on habite l'urbain de ces lieux-là, et pourtant il y a quelque chose d'une dimension urbaine qui s'est généralisée au sein même de la ville et qui aussi déborde en quelque sorte des frontières classiques de la ville.
L'urbain, ce n'est pas seulement la banlieue, mais c'est notamment la banlieue, c'est notamment le territoire métropolitain, c'est notamment le rurbain, c'est notamment le périurbain, mais c'est la ville aussi.
C'est la ville aussi, c'est-à-dire c'est pas, je ne cherche pas à faire une sorte d'histoire, comme si après la ville, après le village, la cité, enfin, après la ville, il y avait l'urbain. L'urbain se mélange dans la ville, il dérange en quelque sorte la figure classique de la ville, et ce qui me paraît intéressant, c'est le remaniement, par exemple, exemple de ces pôles, n'est-ce pas, qu'on a tendance à opposer, du centre et de la périphérie. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui on a affaire à des excentrations, ce peut être le cas, vous voyez, les sociologies de la ville beaucoup plus classiques que nous connaissons l'un et l'autre vont parler des ghettoisations, des ségrégations, on ne doit pas oublier ça bien sûr, mais mon parti pris est différent, l'éclairage est autre. Et donc ce qui m'intéresse c'est les décentrations en quelque sorte, le fait en effet que le centre n'a pas le monopole de la centralité.
Parce que les mots que vous employez notamment à l'égard de la banlieue sont plutôt positifs. Vous dites qu'elle est l'échappée de la ville, donc l'échappée belle un peu. Vous dites qu'elle est son décalage heureux et que parfois elle peut avoir un air terne, mais qu'il y a un certain bonheur contemporain ou moderne dans cette périphérie, dans cette banlieue.
Oui, tout à fait. Je fais référence par exemple à Sanso qui avait fait de très beaux articles sur la banlieue, prenant un peu à contre-pied le discours qu'il était convenu d'avoir sur la banlieue, un discours finalement plaignant, un discours considérant finalement qu'il manquait quelque chose à la banlieue et qu'il lui manquait quoi donc ? Eh bien la ville, évidemment. Or, on peut se demander si la banlieue n'est pas aussi au centre de la ville, dans une espèce d'art de l'habiter. Non pas au sens, n'est-ce pas, d'une espèce de coïncidence parfaite entre soi et cette ville, n'est-ce pas ? Ce qui m'intéresse, et donc ce qu'on retrouve chez Jacques Reda, chez François Bon et chez Hopper, c'est une espèce de décalage, oui, en effet, de décentrement.
Ce qui vous intéresse beaucoup chez François Bon, c'est ce livre paru il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Paysages faire », qui raconte les paysages qu'il voyait ou qu'il ne voyait pas, qu'il avait du mal à percevoir chaque semaine alors qu'il allait en train de Paris à Nancy. De Reda, ce qui vous intéresse, c'est la marche dans la ville, la perte de soi dans la ville un peu.
Oui, je cite plusieurs ouvrages de Reda, mais notamment je cite « Les ruines de Paris ». C'est un ouvrage que je trouvais extraordinaire. Parce qu'il réussit finalement à dire que on n'a pas à opposer comme cela le bonheur au malheur, qu'il peut y avoir au fond une sorte d'inquiétude qui est une manière de présence à soi et qui peut, lors même qu'elle est intriquée à des sentiments par exemple de fatigue, produire un certain bien-être. Hein. Il montre au fond ces paradoxes, ces espèces de contradictions quotidienne que nous vivons donc dans cette manière d'être présent au monde et en même temps d'y être absent, de bénéficier de cette présence du monde et en même temps d'avoir le sentiment aussi de sa propre absence.
Dans Reda, expliquez-vous, j'aime le jazz et donc la pluie, le jazz et donc la pluie, j'aime les arrêts de bus où l'on s'ennuie absolument, les quais déserts et les ruelles sombres. Et plus généralement, vous dites de la ville ou du paysage que ce n'est pas une esthétique, ce n'est pas une beauté, ce n'est pas, c'est pas un tableautin, mais que c'est une expérience.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, il y a volonté, si vous voulez, pour moi, de partir finalement, on pourrait dire du vécu, de l'expérience, on pourrait dire du sensible, de l'émotion, ou de quelque chose de beaucoup plus fragile, de beaucoup plus ténu, de beaucoup plus modeste au fond, qui serait la simple impression. L'idée, c'est que ce n'est pas un environnement ou un décor qui nous gouverne ou nous détermine, c'est un échange qui se produit au travers d'une ambiance qui parfois arrive.
Vous dites d'ailleurs, la ville est surtout un hasard, puisqu'un organe, puisqu'un corps, c'est un hasard. Mais vous dites aussi, c'est une formule très jolie, mais derrière l'élégance de la formule, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous entendez par là, la ville arrive parfois comme une ondée.
Oui, c'est en fait en référence à ce qu'écrit à un moment Jacques Reda, que je cite très précisément, elle parle de quelque chose d'aquatique dans la ville. C'est-à-dire, l'enjeu c'est quand même, si vous voulez, au risque de paraître délirant, de venir dire que l'expérience de la ville est si riche, jusque dans son côté banal, ordinaire, peut-être dirais-je mieux, quotidien, que l'on peut y percevoir ce que l'on n'y voit pas. Qu'il y a quelque chose de l'invisible qui compose aussi avec le visible, qu'il y a quelque chose de l'inhabitable qui compose avec l'habitable. Donc là, il y a des richesses, il y a des temps, en quelque sorte pluriels, des moments, des raretés, et c'est en cela que c'est quelque chose qui est de l'ordre du hasard, plus que le résultat d'une programmation.
On a souvent identifié le théâtre à la ville, du moins en Occident, depuis la Renaissance, à tel point que le premier théâtre de la Renaissance, le théâtre dit théâtre olympique de Palladio à Vicence, son fond de scène, figure 5 rues en perspective, menuisées, comme ça, qui vont vers le fond de la scène. La ville moderne n'est plus un théâtre, plus exactement, la banlieue n'est pas exactement un théâtre.
Non, Je fais ici référence par exemple à Paco, Thierry Paco, qui peut dire qu'en effet, l'art qui est contemporain du monde urbain dans lequel nous sommes, ce n'est plus le théâtre, c'est plutôt le cinéma ou encore la vidéo, avec ce que ça suppose de superposition d'images, d'imagerie en quelque sorte, voyez, de multiplication de signes, ce que Henri-Pierre Jeudy appelle la constellation des signes, non pas au sens d'une cacophonie, de quelque chose qui nous rendrait fous, encore qu'éventuellement, évidemment, cette vitesse peut aussi, en quelque sorte, nous abrutir ou, pour le dire plus élégamment, peut-être nous aliéner, mais il y a aussi quelque chose de féerique, quelque chose de vertueux, en quelque sorte, dans cette espèce de frénésie, de fête au quotidien qui n'est pas forcément festive pour autant, qui ne dépend pas non plus, là encore, de la programmation, n'est-ce pas, d'une fête et de son organisation.
Quittons un instant le monde des idées, des images, de l'imaginaire, parce que vous en référez aussi à autre chose, qui est ce que vous appelez le sensible, des situations perceptives, et vous employez un mot, corporéité.
Oui, la corporéité, c'est dire qu'au fond, le corps n'est pas que le corps. Le corps n'est pas qu'un engin, qu'un véhicule, et surtout, il n'est pas exactement ce à quoi je corresponds bord à bord. Hein. Donc la corporéité, c'est l'idée de dire qu'il y a toujours au fond un écart qui se joue entre soi et soi-même du fait même de ce corps qu'à la fois je suis et qu'en même temps j'ai. Alors ce fait d'être ce que j'ai installe en quelque sorte un corps qui ne peut pas se réduire tout juste à une espèce d'équipement dans sa performance. Et le livre, évidemment, fait partie de ces ouvrages qui veulent résister à l'impératif de la performance, du résultat, avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas
Par corps, vous entendez aussi bien le corps souffrant.
Oui, tout à fait, ce n'est pas le corps parfait, ce n'est pas la forme, en quelque sorte, qui fait s'effacer cette corporéité, cette incarnation, cette humanité aussi bien.
Il y a un exemple très explicite dans votre livre, c'est quand vous décrivez ce qu'est une visite à la Joconde au Louvre. Bien sûr, ce n'est pas seulement une visite à un tableau, à une image qui nous fera réfléchir, c'est beaucoup d'autres choses.
Oui, c'est une aventure. C'est-à-dire que c'est un lieu, c'est dans ce lieu toutes sortes d'éléments qui composent. Vous voyez, il y a encore une fois ici cette idée que le chef-d'œuvre ne détermine pas tout entièrement le regard, qu'il se joue là une rencontre hasardeuse, parce qu'en fonction, en effet, des personnes qui se trouvent là, eh bien, les choses vont se vivre sous un mode particulier. Il y a donc quelque chose de la singularité, quoi. Et donc, on n'est pas dans la série, la sérialité, le banalisé, enfin bon. Il y a aussi, éventuellement, c'est dans le passage, n'est-ce pas, où je parle justement donc de la Joconde, on pourrait dire une prise en compte, comme cela, un petit peu dispersée, d'un certain nombre d'éléments, et on pourrait se dire qu'il y a éventuellement une certaine idiotie à ne pas se concentrer sur le chef-d'œuvre et ne regarder que lui. Je crois qu'en effet, si l'on en venait à admirer de la même façon que ce tableau, si on en venait à admirer, le panneau qui indique où se trouve la sortie, sans doute y aurait-il un problème. Et en même temps, c'est l'ensemble de ces signes, c'est l'ensemble de ces éléments qui composent une ambiance.
C'est que vous nous expliquez toujours à propos de la Joconde, Patrick Baudric, que ce qui est à voir aussi au Louvre, c'est bien sûr la foule, son odeur, son bruit, ses rires, les timidités, les touristes, la cafétéria, le graphisme, enfin, toute cette expérience complète du musée. Mais avant de terminer, il y a un mot dont vous avez peu parlé, et ça fait pourtant l'objet de votre titre, c'est cette notion d'impression sociale.
Social, oui, parce que quand même je suis sociologue, donc il s'agit bien de dire que ça se joue du côté du social, du collectif, et que donc ce n'est pas simplement quelque chose qui serait personnel, intime, au tréfonds d'une personne, enfin voilà, ça ne relève pas uniquement de son propre psychisme, si je puis dire, et quelque chose qui est travaillé en quelque sorte justement par du social. Et l'idée d'impression, c'est d'être un petit peu en dessous, si je puis dire, de ce que l'on nomme la sensation ou l'émotion dont on a beaucoup parlé, dont j'ai parlé aussi dans d'autres livres. Là, l'impression, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, c'est quelque chose de plus fragile. Et au fond, ce livre vient raconter quelque chose d'une fragilité, par la référence aux écrits de Jacques Reda, par exemple, ou encore de François Beau, ou encore dans ces tableaux d'Édouard Oppert, où on pourrait se dire, voilà des personnages qui s'ennuient, qui n'ont rien à se dire, qui sont dans un décor qui les écrase, et en même temps, je pense qu'il y a une richesse, il y a une mobilité dans ces tableaux qui ont l'air d'être immobiles, il y a une richesse qui est très forte, et donc c'est cela le stade de l'impression, comme l'on parle de la simple impression, c'est quelque chose d'assez modeste, mais qui mérite, je crois, d'être relevé.
Django Reinhardt et Jean Sablon, rendez-vous sous la pluie.
Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes.
Le livre de Patrick Baudry s'appelle « La ville, une impression sociale ». Il est paru chez Circé il y a quelques semaines, 128 pages, 14 euros. Et on trouvera sur notre site internet les références de 6 ou 7 ouvrages de Patrick Baudry sur la mort, les imaginaires urbains, le deuil impossible, etc.
J'ai froid et je m'ennuie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie ?
La maison d'architecture du centre essaye de protéger la destruction qui les menace, les anciens laboratoires 112, édifiés entre 1947 et 1953, près de la Loire, à Orléans. C'est un édifice en béton armé de l'architecte suisse Jean Tschumi, un édifice sur pilotis d'une très grande qualité, connu aussi comme l'usine Famar, à Saint-Marceau. La municipalité entend y construire une arène sportive Arena de 10 000 places. Un débat sur l'œuvre de cet architecte suisse aura lieu mercredi à 18h avec l'historien suisse Jacques Gubler et le propre fils de l'architecte, Bernard Tschumi, le célèbre architecte franco-américain. Mercredi à 18h, médiathèque d'Orléans, place Gambetta, une exposition ouvrira ensuite à l'issue du débat à la Maison de l'architecture, quai Saint-Laurent, à Orléans. C'est uniquement à cause du mot « urbain » que contient l'intitulé de leur exposition et parce que la chronique que nous avions consacrée l'autre jour à la question des poulaillers, des clapiers, des cages à lapins et des termitières n'a pas encore, dans cette période post-électorale, suscité le mouvement de masse que nous en espérions, que nous autorisons à inviter nos auditeurs à aller visiter l'exposition d'un groupe d'artistes graveurs et estampeurs « Bestiaires urbains ». Notre espèce, écrivent-ils, a produit d'immenses termitières appelées « villes » où elle s'est établie à son aise, reléguant le reste des êtres vivants à un rôle utilitaire ou à une vile fonction de pourvoyeuse d'amour, je pense qu'il vise les chiens et chats, parquant les plus fiers, les oiseaux et les perroquets, dans des cages pour son amusement ou bien pire encore, consommant leur chair. Nous, graveurs de l'atelier au lilas, rendons hommage dans ce livre, le livre et l'exposition, aux animaux de la ville, les victimes, les sauvages, les apprivoisés et aussi les héroïques petites bêtes qui, grâce à leur audace, réussissent, malgré notre ingéniosité, à boire notre sang. Drôle de mazo, drôle de zozo zoophile, ces artistes-là, l'exposition Bestiaires urbains de l'Association pour l'estampe et pour l'art populaire se tient 49 bis rue des Cascades à Paris 20e. Jean-Christophe Choblet devait être parmi nous, mais il a dû partir, je crois, à l'étranger. Il ne pourra donc pas nous commenter Forme publique, une biennale de création de mobilier urbain qui est organisée à La Défense cette année pour la première fois et dont il est l'initiateur avec De Facto, un établissement public qui est lié au renouveau de La Défense et dont les préoccupations sont de transformer l'espace public de l'immense dalle de 53 hectares. Ils ont commandé 8 projets, sélectionnés parmi 103 propositions qu'on pourra voir jusqu'à la fin décembre sur l'esplanade de La Défense. On va entendre, pour commencer notre émission sur les voies sur Beige, « Sous les ponts de Paris », célèbre chanson de 1914 de Vincent Scotto, parole de Jean Rodor, interprétée par son créateur, Georges Elle. Le Les voies sur berge parisiennes redeviennent d'actualité avec les projets de la ville de Paris, projets qui étaient récemment encore bloqués par la préfecture, mais l'accord a été donné in extremis mercredi, il y a trois jours. Tout ça dans le cadre d'une guerre picrocolline qui opposait l'État et la ville sur plusieurs terrains urbanistiques, Ballard, etc. On a souvent parlé dans cette émission. Ces projets ne font pourtant pas l'unanimité. Ainsi, la revue d'architecture, ou DA, faisait paraître en mars un dossier de 20 pages introduit par un de vos éditoriaux, Emmanuel Caille, qui dénonçait la démagogie de ce projet que vous jugiez être un nouveau signe à repli sur soi à caractère bobo. Nous en parlerons tout à l'heure. Parmi les contributeurs, l'historien Antoine Picon, que nous avons enregistré avant qu'il ne parte à Boston, où il enseigne à l'université de Harvard.
Le parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marqué.
La Seine, depuis très longtemps, est en fait une des infrastructures majeures de la capitale. C'est une voie de circulation, évidemment fluviale. C'est aussi toute une série de transformations. La construction des quais à partir du XVIIIe siècle. Et puis, il y a eu des barrages même. Il y a eu un barrage au XIXe siècle. Et puis, bon, c'est le dernier avatar donc, de cette lente transformation de la Seine en une infrastructure moderne.
On a souvent un sentiment, les Parisiens ont le sentiment que la Seine est une sorte d'éternel, nourri par la photographie ou la peinture impressionniste, par exemple. Or, la Seine, c'est vraiment une construction.
C'est les deux. Je crois qu'on sait aujourd'hui que la nature est toujours partiellement construite. Et puis, en même temps, c'est vrai que la Seine, par exemple, a tendance à regagner son cours du néolithique. Il y a les deux. C'est un mélange de nature et de technologie. Disons que cette Seine assez minérale, très monumentale qu'on connaît aujourd'hui, oui, c'est une construction humaine.
La voie express a été proposée par Delouvrier en 1964, février 1964, et ouverte très vite après, puisque c'était fin décembre 67, elle a été bouclée. C'est un moment assez caractéristique quand même d'une certaine puissance de la transformation de la ville.
Bah oui, on est en plein dans cette transformation, dans cette capacité de transformation des Trente Glorieuses, parfois pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. Bon, je crois qu'il ne s'agit pas de dire que tout est bien, y compris avec la voie Pompidou, mais aussi de mesurer quand même ce qu'elle a apporté à la capitale. C'est-à-dire une expérience tout de même assez unique de la ville.
Et est-ce que ça a été extrêmement débattu dans les débuts ?
Pas tant que ça, finalement, par rapport au débat qu'on connaît aujourd'hui. Bon, il y a toujours eu... Bon, il y a eu aussi les fameuses caricatures où la Seine se transforme en autoroute, etc. Ça n'a pas ravi tout le monde. De toute façon, les débats sur l'automobile, ils existent dès cette époque-là. Mais il est évident qu'on n'est pas dans le degré très très fort de polémique qu'on connaît aujourd'hui, avec, je dirais, le côté résolument anti-voiture d'une partie des élus parisiens.
Vous avez écrit que d'une certaine façon, elle a été un compromis.
Elle a été un compromis parce qu'à l'époque, on a vu fleurir toute une série de projets dans lesquels les autoroutes intramuros se multipliaient, bon, avec des anneaux internes. Par exemple, le projet Lafay qui imaginait un deuxième périphérique autour de ce qu'il appelait le Paris cristallisé, c'est-à-dire principalement les arrondissements centraux. Il y avait le fameux projet d'autoroute nord-sud passant par Paris et dont d'ailleurs mène Montparnasse et quand même l'opération est en partie liée à ces projets. Donc je dirais... La voie Pompidou, elle est à la fois radicale à certains égards, c'est-à-dire cette transformation en voie rapide des berges, et à la fois, je dirais, elle se coule quand même dans un cadre préexistant.
Vous savez qui ont été les architectes ou les gens qui l'ont aménagé concrètement ?
Ça, non.
Parce que si on la regardait avec un regard un peu poétique, si on en décrivait les divers moments, on s'apercevrait qu'il y a beaucoup de soins. Il y a d'assez beaux arbres, il y a parfois des trottoirs, il y a parfois des éléments de petits jardins, il y a des passerelles de franchissement. Ce n'est pas simplement un égout à voiture.
Je pense que c'est... Là aussi, c'est un genre de compromis. De toute façon, si on regarde, la voie Pompidou, elle n'est pas complètement continue. C'est-à-dire on remonte en partie haute, on redescend en partie basse. Effectivement, je crois que c'est quelque chose. Et puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent, même dans l'histoire des infrastructures, il y a de la sédimentation historique. C'est-à-dire que tout n'est pas fait une fois pour toutes et figé. Je dirais les choses évoluent et la voie Pompidou, elle a évolué.
Oui, mais je pense que si on s'interrogeait sur son histoire, l'histoire de son dessin, l'histoire des petites polémiques, ne serait-ce qu'administratives ou bureaucratiques, ou les services des monuments historiques qui ont pu se pencher sur la question, infléchir tel ou tel moment, on s'apercevrait que c'est une aventure assez complexe même, qui a été menée en 3 ans.
Je suis assez d'accord. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de travaux encore à faire. Bon, il y a des historiens comme Mathieu Flonneau qui ont par exemple pas mal travaillé sur Paris et la voiture. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour comprendre finalement la complexité de ces choses-là.
Vous défendez aussi l'idée que cette voie sur berge offre aux gens qui la pratiquent, de jour mais surtout la nuit, ou les jours où il n'y a pas d'embouteillage, une émotion urbaine et spatiale très particulière.
Oui, c'est une des choses auxquelles je suis attaché. C'est quand même l'idée qu'il y a une expérience un peu unique de la ville, cette espèce de sentiment de glisser à la fois à la frontière de la ville et de l'eau. Enfin, il y a quelque chose d'un peu unique et de très poétique. Moi, c'est ce que je trouve dommage, finalement. C'est que je pense qu'ils font un peu de luxe dans l'urbanisme et que, curieusement, remplacer la voie Pompidou par des séries de guinguettes, de choses diverses, même si dans le projet le plus récent de la mairie, il y a quand même un compromis, c'est-à-dire qu'il y a encore une circulation automobile. Mais je dirais cette espèce d'impression à la fois de glisser assez vite, au contact de l'eau, au contact des monuments, c'est quand même quelque chose de précieux.
Oui, on nous dit la ville maintenant, la ville centre doit être créative, ludique, elle n'a plus beaucoup à faire avec ni l'automobile, ni l'infrastructure. Elle devrait ne plus avoir à faire.
Oui, moi je pense que oui, ben je suis en désaccord avec cette vision. Il faut quand même être clair. Je pense d'une part qu'on oublie quand même que dans le Grand Paris, beaucoup de gens circulent en voiture et qu'actuellement on est très très loin de pouvoir faire circuler tout le monde en transport en commun. Et qu'une ville, on sait ce qu'il advient des espaces complètement piétonnisés. Donc est-ce qu'il faut absolument souhaiter ça pour Paris ? Il y a quand même, on nous parle beaucoup de la reconquête de la Seine, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on est au contact de la Seine. À Paris, il faut quand même tout de même pas exagéré. Donc je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez unique qu'on risque de faire disparaître au prix finalement de séquences qui risquent d'être assez banales. Et donc je m'interroge.
Vous avez peur quoi que les bateaux, les bateaux phares et les bateaux restaurants s'établissent sur tout le long, sur 12 km ?
J'ai peur d'une espèce de pittoresque dans un premier temps sympathique, dans un deuxième temps dont les aspects commerciaux ou ludiques ne soient pas forcément si formidables que ça à long terme. Je dirais globalement, quand on regarde l'évolution de Paris, on a quand même un peu l'impression que la fonction de loisir... C'est, bon, dans le texte, je parle pas mal du fait que malgré tout, une agglomération de 10-12 millions d'habitants, il faut qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait une espèce d'énergie. Je trouve que New York, de ce point de vue-là, a su concilier assez bien ces énergies et poétiques. Et je trouverais dommage que Paris devienne simplement un lieu de consommation.
Dans la longue histoire des quais de Paris et de leur transformation à divers usages, les voies de circulation sont assez anciennes puisqu'il existe des propositions pour la rive droite dès 1927. Même si certains tronçons préexistaient, la voirie que nous connaissons a été proposée en février 1964 par Paul Delouvrier et inaugurée le 22 décembre 1967. En 13 km, on traversait Paris en un quart d'heure. Pompidou avait parlé d'un cadeau de Noël fait aux Parisiens. Dans son discours d'hommage au district, le 18 novembre 1976, il expliquait encore que sans abîmer le paysage, elle avait procuré cette voie express aux 23 millions de gens qui l'ont empruntée l'an dernier quelques-unes des plus belles satisfactions qu'un homme puisse avoir du point de vue esthétique, comme par exemple lorsqu'il sort du tunnel devant le Louvre et qu'il débouche sur le pont Neuf et l'île de la Cité. La voie express rive gauche n'a pas été achevée, elle a été abandonnée par Giscard d'Estaing dès son élection, en mars, je crois, ou avril ou mai 1974. Mais plutôt, la voie rive droite a été rebaptisée Georges Pompidou en 1976. Les berges de la Seine ont été inscrites en 1991 au patrimoine mondial de l'humanité entre l'île Saint-Louis et le Champ de Mars. La municipalité actuelle, Dominique Alba, a pris diverses mesures pour canaliser la circulation et peut-être un jour la supprimer, notamment l'opération Paris-Blage, dont la première édition a 10 ans puisqu'elle remonte à 2002. Le projet actuel a été dévoilé par Bertrand Delaunay il y a plus de 2 ans, le 14 avril 2010. Pouvez-vous nous, vous qui dirigez maintenant La Pure, et Patricia Pellou qui travaille dans cette La Pure dans la mission Seine, nous décrire le projet initial ? Je ne dis pas le projet tel qu'il a été ensuite dessiné par des collaborateurs, mais celui que vous, des gens que vous avez choisi, mais l'intention.
L'intention n'a pas changé, puisque le projet initial, c'est de conserver la circulation sur la rive droite et d'y installer des feux qui permettent à la fois de réguler la circulation et de faciliter l'accès aux berges. Et d'ailleurs, l'arrêté de la préfecture, il ne concerne pas l'ensemble des berges, celui que vous avez cité, il concerne uniquement la rive droite.
Oui.
Et puis sur la rive gauche, par contre, il s'est agi d'une piétonnisation complète, mais réversible, puisque c'est un accord qui est passé avec la préfecture de police. Donc le projet, dans ses fondamentaux, est toujours resté le même.
Réversible, concrètement.
Ça veut dire qu'on doit pouvoir enlever toutes les installations en moins de 24 heures en cas d'inondation.
Oui,
et que si la préfecture de police considère qu'il y a difficultés de circulation non gérables, on doit pouvoir déposer les installations.
Mais ça veut dire que vous n'allez pas enlever les bitumes de la chaussée, vous n'allez pas enlever les glissières de sécurité, etc.
Alors, la raison pour laquelle on n'enlève pas les bitumes de la chaussée, c'est aussi une autre raison, c'est que le paysage des berges est un paysage en soi. c'est ce que disent d'ailleurs l'ensemble des critiques, et que nous n'avons pas considéré qu'il y avait lieu là d'installer par exemple un projet d'architecture qui viserait à modifier le paysage des berges. C'est-à-dire qu'on considère que le caractère monumental et minéral du paysage des berges fait partie de son esthétique qui fait qu'on est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le projet...
Oui, mais enfin, c'est pas grâce au bitume et aux barrières de sécurité.
Oui, mais c'est un ensemble monumental. Et donc ça, c'est absolument important de le préserver. Donc sur la rive droite, il est totalement préservé dans son intégrité, puisque les voitures continueront à circuler, et que le travelling urbain dont tout le monde considère qu'il est extraordinaire, il est préservé.
Vous en convenez.
Bien
sûr. Qu'il puisse y avoir un bonheur urbain circulatoire.
Mais il y a un bonheur urbain. Ouais. Mais entre un bonheur urbain et puis le fait d'avoir une autoroute qui traverse toute la ville sans aucun feu, on peut peut-être trouver un équilibre. En l'occurrence, là, on met 6 feux sur 12 kilomètres.
Donc,
c'est pas encore le bagne. Hein.
J'imagine quand même que quand vous avez commencé à réfléchir à ça il y a 4 ou 5 ans, vous ne pensiez pas conserver les panneaux routiers et les glissières de sécurité sur la rive gauche. Vous rêviez d'un univers quand même plus...
On ne conserve pas les panneaux routiers sur la rive gauche.
Bah, s'il faut rétablir du jour au lendemain, un jour la circulation.
Ça peut se rétablir, on peut reposer un panneau routier. Enfin, ça s'installe très rapidement. Donc on ne conserve pas les panneaux routiers. On conserve le sol, on conserve le caractère minéral. Et ensuite, quant aux glissières de sécurité, c'est des discussions qui auront lieu dès que le projet redémarrera.
Alors comment concrètement fonctionne le travail avant la consultation qui a été lancée ensuite? Donc la phase amont du travail, parce qu'il y a un très gros travail, un travail d'argumentaire intellectuel. J'ai lu plusieurs ouvrages, des plaquettes, tout ça. Et puis il y a un travail, je dirais, de pré-programmation, mais très poussé, que vous avez fait, j'imagine, Patsy Apelou, auquel a travaillé aussi Chaublet, l'auteur de Paris-Plage, le premier auteur de Paris-Plage.
Bah, oui, enfin, en fait, on a élaboré plusieurs, en effet, scénarios. Mais l'objectif commun, c'est bien, sur la rive droite, en tout cas, d'ouvrir les quartiers sur la ville. Donc, c'est vrai, comme le disait Dominique, on maintient la circulation parce que le contexte est très différent, rive droite et rive gauche. Hein. Donc, aux rives droites, on a des flux qui sont beaucoup plus importants puisqu'il y a cette continuité d'ouest en est. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est à positionner ces 6 feux à des endroits clés pour permettre d'ouvrir des quartiers et des institutions sur le fleuve. Pour prendre un exemple concret, c'est aussi, si on se pose la question de faire évoluer la voie Georges Pompidou aujourd'hui, c'est aussi parce que le contexte, l'environnement urbain a changé. Pour prendre l'exemple, par exemple, du palais de Tokyo ou du musée d'art moderne de la ville de Paris, au droit de la passerelle de Billy, l'idée, c'est bien d'établir des liaisons entre la rive droite et la rive gauche. Puisqu'avec l'arrivée du musée du Quai Branly, les choses ont changé. Il y a beaucoup de flux piétons, il y a une attractivité beaucoup plus importante qui s'effectue. Et donc la traversée de l'avenue de New York, hein, entre le palais de Tokyo et le port de Billy, est extrêmement difficile aujourd'hui, puisque c'est un passage souterrain. Donc le feu est implanté là, mais je dirais qu'il y a un feu, mais c'est bien l'idée d'ouvrir l'ensemble de ces musées, de faire en sorte de créer des opportunités pour que, par exemple, les institutions puissent s'ouvrir davantage sur le fleuve.
Parce qu'il y a de quoi les recevoir ensuite, il y a des surfaces de quais suffisantes pour que les gens qui visitent le palais de Tokyo aient ensuite...
Oui, bien sûr. Après, on rejoint la passerelle de Billy pour aller directement de l'autre côté, du côté du musée du Quai Branly. Donc, les flux ont changé, je dirais, les flux piétons. Donc, c'est aussi pour ça qu'on réinterroge. Donc, on a regardé les endroits qui avaient un sens, enfin, en tout cas urbain, pour installer ces nouveaux liens. On pourrait prendre l'exemple des Tuileries, avec la terrasse des Tuileries.
Il y a aussi un passage souterrain actuellement.
Un passage souterrain.
Qui débouche en bas de la passerelle.
Exactement, mais par contre, le jardin des Tuileries, la grille n'est pas ouverte, la grille est fermée, et donc on ne peut pas connecter directement le jardin des Tuileries au quai des Tuileries, alors que la clôture était ouverte auparavant. Et donc l'installation d'un feu va permettre de créer un lien qui va être direct, établir un lien entre la passerelle au pôle Cédar Senghor qui a été créé en 2000, avec donc le jardin et offrir d'autres opportunités pour exploiter la terrasse.
C'est donc pour la rive droite qui sera peu transformée physiquement. La plus transformée quand même, c'est la rive gauche, puisque la rive gauche, quand la circulation n'a pas lieu, sont établies des activités à demeure, des piscines, des choses diverses, terrains de sport,
C'est plus riche et plus complexe que ça. D'ailleurs, les gens que vous avez interviewés, là, qui se sont exprimés, parlaient d'expérimentation urbaine. Hein. C'est Patrick Baudry qui parlait de ça. Vous avez parlé de la ville comme théâtre. Donc, il s'agit de donner la possibilité à quiconque d'être bien sur cet espace, à la fois en tant que promeneur, donc dans des moments où il n'y aura rien, et puis à d'autres moments où il se passera des choses programmées. Donc, pour travailler sur cette programmation, on a effectivement passé beaucoup de temps avec... toutes sortes de gens, d'experts, du Jean Blaise à Sabine Lang. Enfin, on a fait venir des artistes, des paysagistes, des sociologues. Enfin, on a fait tout un travail, y compris et en associant tous les services techniques de la ville, sur trois thématiques qui étaient les thématiques que le public avait réclamées, qui sont la nature, le sport et la culture. Mais l'idée, c'est bien de ne pas faire un jardin, mais de parler de nature. La nature, ça peut être on ne défriche plus. Si on n'enlève pas les mauvaises herbes, qu'est-ce qui se passe ?
De toute façon, on défriche plus beaucoup à Paris. Moi qui habite
on défriche
en
encore
banlieue,
beaucoup.
Je vous assure que ce n'est pas très défriché.
On défriche
ni des
encore
canettes
beaucoup.
De bière.
La question du sport aussi. Paris ne dispose d'aucun espace de sport de plein air, à l'exclusion d'un stade. Les 27 stades sont sur la périphérie de Paris. Et donc cet endroit-là est aussi un endroit qui va permettre d'avoir des pratiques sportives de plein air qui ne sont pas forcément des pratiques qui demandent des installations lourdes. Donc il y a quand même une adéquation entre le contenu et puis les formes.
Qui existe par exemple à Bordeaux maintenant sur les quais de la Garonne.
Par exemple, mais on réaménagera beaucoup moins que les quais de la Garonne.
Emmanuel Caille, vous avez publié donc ce dossier assez critique dans DA en mars.
Oui, parce que je m'interroge sur les raisons qui poussent effectivement les services de la ville à massacrer littéralement cette voie qui est unique au monde. Il n'y a nul besoin de créer à cet endroit-là des feux, des lieux de loisirs, alors qu'il y a la moitié des quais de la Seine à Paris sont accessibles au public. Ils sont vides, ils ne sont pas aménagés. Enfin, quand je dis ils sont vides, il y a des gens qui y vont, mais ils sont loin d'être surchargés. Donc pourquoi, tout d'un coup, justement se concentrer là où il y a de la voiture ? C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est idéologique, on veut absolument rendre la pratique automobile impossible. Et en plus, c'est anti-écologique, parce que pourquoi la voie Georges Pompidou a été créée ? Elle a été créée parce qu'il y avait une surcharge sur les quais. Et là, en venant bloquer... Parce que n'importe quelle personne qui a conduit une fois dans sa vie comprend bien que si sur une autoroute, même si on y roule qu'à 40 ou 50 à l'heure, on met des feux, ça crée des embouteillages, de la pollution. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de circulation sur les quais, alors que c'est justement sur les quais, alors pour que les gens ne soient pas parisiens fassent la différence, les berges, c'est ce qui est en bas, près de l'eau, et les quais, ce qui est au-dessus, alors que les vrais lieux urbains, les lieux qu'il faut aménager, les lieux où il faut avoir moins d'automobiles, plus de circulation douce, et sans doute des aménagements ludiques, festifs, culturels, comme aiment bien les mairies de Paris, c'est là qu'il faut les mettre, et surtout pas en bas. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, quand les voies sur berge sont ouvertes le dimanche, ça crée un monstrueux embouteillage sur les quais. Alors, c'est assez drôle.
Quand elles sont fermées, vous voulez dire, oui, c'est ça.
Quand les voies sur berge sont fermées, donc toutes les voitures se retrouvent dans un monstrueux embouteillage sur les quais. Dans la revue d'A, j'ai pris une photo moi-même qui est assez comique parce qu'on voit un panneau publicitaire de la ville de Paris qui dit « Paris respire grâce à la libération des voies sur berge ». Paris respire et le panneau il est en plein milieu d'un embouteillage qui enfume littéralement les pauvres piétons. Enfin, c'est vraiment ridicule. Ce qu'il y a, c'est quand on nous dit que les gens veulent plus de lieux de sportifs, c'est vrai et c'est légitime. Mais pourquoi pas les faire ailleurs ? Parce qu'on le sait très bien, parce qu'on veut absolument bloquer les voitures et surtout empêcher les gens de banlieue de venir. C'est-à-dire que c'est vraiment un entre-soi pour que les gens de banlieue ne puissent plus emprunter. C'est la seule voie que peuvent encore emprunter les gens qui viennent de banlieue. Ce sera terminé.
Dominique Calba.
Donc si j'entends bien ce que dit Emmanuel Caille, il est pour les espaces de loisirs, mais sur le quai haut. Donc je retiens quand même, ça veut pas dire qu'il est...
Absolument.
Donc c'est juste une question...
Je suis pour moins de voitures, plus de vélos, mais là où il faut.
Non, non, tu as dit que tu es pour les espaces de loisirs, mais sur le quai. Donc si c'est ça, c'est juste une question d'endroit, on pourrait peut-être en rediscuter.
Mais c'est pas juste une question, c'est fondamental.
Non, c'est une question de lieu, qui est haut, qui est bas. Par contre, je voudrais quand même préciser une chose. Le projet n'est pas sur la rive droite d'empêcher les voitures de circuler sur les berges. Ce qui est important, parce que la seule berge continue, la seule voie continue pour les non-parisiens, c'est la voie rive droite. Nous sommes d'accord. Donc sur la rive droite, il s'agit simplement de réguler pour faciliter en grande partie des flux piétons qui aujourd'hui deviennent insupportables. La colline des musées en est le révélateur. Aujourd'hui, on passe dans un passage souterrain qui est un passage d'un mètre de large absolument glauque. On a un muret béton séparateur sur la chaussée, donc on est dans une situation d'autoroute. Donc aujourd'hui, il s'agit de repacifier ça, même si le mot te déplaît, au profit d'une situation tout simplement normale. Il ne s'agit pas de faire autre chose que quelque chose de normal. Je sais bien, cette saison...
La présidence donc normale, je vois
je
bien,
n'irai pas plus loin. Je dis simplement. Non, au-delà de ça, je finis juste. Donc, la rive droite, je crois que la question, et Patricia l'a évoqué, il s'agit d'une situation urbaine complexe dans laquelle on fait des aménagements relativement simples qui sont, je pense, dans la continuité de l'histoire des voies sur berge, parce que comme le signalait François, il y a des passerelles qui ont été créées, il y a un certain soin qui a été créé, il y a des espaces qui ont été réservés. Donc on ne vient que consolider ça, tout simplement, plus quelques bateaux quand même. Par contre, rive gauche, où la voie sur berge est totalement discontinue, parce qu'on n'a pas réussi à la faire en bas de Notre-Dame,
parce qu'à un moment, je veux bien que la ville soit de plus en plus belle avec ce genre d'ajout, et je suis pour l'infrastructure, et si un jour on en reparlera, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec l'infrastructure, on n'a quand même pas réussi à en mettre une à Notre-Dame. C'est, bon, voilà. On pourrait quand même se poser la question du RERC, qui longe toutes les berges, avec beaucoup plus de monde que dans les voitures, et qui, lui, du fait qu'il y a les voitures, ne bénéficie pas d'un paysage absolument extraordinaire. Parce que ça fait partie aussi du projet des berges.
Ça, on pourrait ouvrir, en effet, quelques
mais c'est prévu.
L'un n'empêche pas l'autre.
Mais ça va venir. Mais pour ça, il faut commencer à ouvrir un intérêt. Le projet du maire de Paris a au moins cette qualité-là, c'est qu'il attire maintenant.
Pour la rive gauche, dont vous parlez, Dominique Alba, vous avez lancé une consultation, et en novembre, vous avez choisi une équipe...
Atypique.
Et vous avez choisi une équipe atypique, animée par Didier Fusilier. Il est connu pour avoir lancé notamment le festival Lille 2004, autrefois, et puis maintenant Lille 3000, avec d'autres gens, des paysagistes, toutes sortes de gens. C'est une sorte de concession pour 2 ans que vous leur donnez.
Exactement.
Mais est-ce que c'est une concession à caractère commercial aussi?
Bien sûr.
Oui. Alors comment
peut-être
fonctionne
cette chose? Peut-être que le bien sûr est... D'abord, la question qu'on s'est posée quand on a travaillé sur ce que tu appelais la définition du projet, ça a bien été de dire, la chose qui vient en tête, c'est on modifie concours d'architecture. Et on a tout de suite dit non, on ne modifie pas, on vient simplement permettre une expérimentation urbaine, et on considère que pour travailler sur l'espace urbain au XXIe siècle tel qu'il est constitué dans sa diversité, il convient d'avoir d'autres outils que celui soit de la planification urbaine, soit de la ZAC, soit du concours d'architecture qui fait de l'espace public. Donc on a essayé de créer une condition différente parce qu'on pense qu'il s'agit d'un projet expérimental de ce point de vue-là, qui va permettre d'enrichir d'autres projets. Vous avez parlé de l'exposition, vous parlerez de l'exposition au pavillon de l'Arsenal qui s'appelle Re-architecture. On est exactement dans cette démarche-là. On est dans la recréation d'un projet urbain sur les voies sur berge qui sera un espace public de 4,5 hectares. Donc après, on s'est posé la question de comment faire. Et à partir de là, il nous est apparu important que l'on puisse écrire le projet au fur et à mesure de sa fabrication. Donc que la méthode d'élaboration soit en fait le fil conducteur. Donc pour ça, il faut une équipe qui soit une équipe active, au sens où elle puisse à la fois gérer, organiser, programmer, voire créer ou passer des commandes pour créer des objets.
Ce sont des spécialistes de l'événementiel, voilà. De l'événement.
Donc elle est pilotée par un producteur qui a une responsabilité.
Du théâtre, on pourrait dire, d'une certaine façon.
Non, Alain Tullot, parce que le producteur, plus, oui. C'est Alain Tullot. Oui. Monsieur Fusilier, Didier Fusilier.
C'est une agence Artevia.
Voilà, c'est Artevia qui est producteur, qui a pris des compétences, comme celle de Didier Fusilier, comme celle d'une équipe aussi liée au sport, et puis Basmet paysagiste et Franck Léazy architecte. Donc ils ont une équipe pluridisciplinaire qui va mettre en place une boîte à outils. Et c'est cette boîte à outils qui servira de support, comme un mécano, pour installer des choses. Voilà.
Il y a une chose, j'aurais bien posé la question à M. Chaublet, mais il n'a pas pu y être avec nous. Dans les documents, je n'ai pas vu encore les documents finaux, ceux qui vont être mis en place par Fusilier, mais j'ai vu les documents, en quelque sorte, qui transmettait l'idée, votre idée, etc.
Oui.
Des illustrations préalables. J'ai quand même été frappé. Pourquoi toujours ces palmiers en pot? Pourquoi ces oriflammes de couleur qu'on voit partout maintenant, même devant toutes les stations-service de toutes nos villes? Non, mais ça, c'est autre chose, c'est Fusilier, oui. Pourquoi ce vocabulaire de ces parasols tous identiques? Pourquoi ce monde-là, du point de vue esthétique?
Moi, je ne sais pas, parce que sur la rive gauche, il n'y a pas les oriflammes ni les parasols.
Non, sur la rive droite, je parle de rive droite.
Oui. Alors, la rive droite, il n'y a rien de tout ça, parce que le vocabulaire que vous décrivez, il est uniquement lié à Paris-Plage.
Ah oui, mais il était reconduit dans les... donc il n'existe plus.
Il n'est pas sur la rive.
Il était sur les documents autrefois.
La difficulté d'exercice auquel on s'est livré, dans la mesure où on n'a pas fait concours d'architecture, on n'a pas image. Or, aujourd'hui, dans ce monde de l'image extrêmement présente, c'est toujours assez compliqué de parler aux gens, d'essayer de faire suggérer des envies ou un autre regard sur un territoire sans pour autant l'illustrer.
Donc c'est une gymnastique pas très simple. Donc les images, on va les voir apparaître dans quelques semaines,
dans quelques mois, dès que ce sera calé, parce qu'il faut quand même là, pour le coup, pour la rive gauche, on n'a pas d'accord de la préfecture, donc peut-être que maintenant les négociations vont pouvoir
Pas encore, mais ce sera... Vous tenez la préfecture maintenant, peut-être, monsieur Delannoy. Au moment où nous parlons, il faut le dire aux auditeurs, nous sommes mercredi soir, donc nous ne savons même pas encore.
Voilà.
Nous sommes à quelques minutes de la révélation du nouveau ministère.
Donc on ne sait pas, donc on verra. Et moi, je trouve que c'est intéressant de regarder aussi le déroulement de cet exercice, parce que pour moi, il y a là une matière à enrichir toutes les façons de travailler sur la ville, comme l'architecture a droit à plein de façons.
Parce que vous sentez bien quand même des reproches que font un certain nombre de gens à l'esthétique de Paris-Plage.
Oui.
À l'univers que ça
Mais les gens font des reproches à toutes les esthétiques.
Oui, mais enfin, ils ont leur
raison. Il y a rarement une esthétique qui échappe aux reproches des gens.
Est-ce que celle-là sera différente?
Je pense que celle-là est d'échapper à la question de l'esthétique, donc ça devient très compliqué, puisqu'elle est vraiment portée par l'usage.
Emmanuel Caille, un mot encore?
Non, mais c'est toujours le piège démagogique, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, est-ce que vous préférez avoir des transats, des palmiers en pot que des voitures? Alors évidemment, tout le monde préfère le sable, la pelouse, la verdure, évidemment. Simplement, en mettant ces aménagements, vous reportez les problèmes ailleurs. Non seulement vous les reportez, mais vous les multipliez. C'est évident. Et d'ailleurs, l'enquête publique que vous avez demandée, j'ai sous les yeux, elle dit bien que ça va augmenter les nuisances sonores, de pollution, etc. Donc
petite portion du quai haut de la rive gauche.
Oui, mais moi, la question que je pose, c'est pourquoi vous ne faites pas ça ailleurs? Il y a plein d'endroits libres sur les quais. Hein, tout le monde peut le voir. Il y a plein d'endroits libres sans voitures qui ne sont pas entretenus. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont plus ou moins délaissés, des jardins un peu comme ça. Pourquoi il faudrait au moins commencer par s'occuper des endroits qui ne sont pas aménagés.
Dominique Elba, une réponse 30 secondes.
On s'en occupe aussi puisque le projet va de berge à berge. Et d'ailleurs, le projet, il est un appel à initiative de Paris Métropole. Donc, c'est un projet. Les berges de Seine sont des endroits que les gens veulent reconquérir. Mais il ne faut pas oublier que le port reste et on garde du port actif au milieu du projet. Donc, ce n'est pas un champ de pâquerettes. C'est l'inverse.
Patricia Pelloux, comme vous le savez, puisque vous avez beaucoup étudié ces quais de la Seine avant de proposer des solutions, les quais de la Seine ont toujours été aussi un lieu d'activité. Ils ont été principalement un lieu d'activité. Est-ce que vous pensez que l'avenir des berges et des quais parisiens est d'être entièrement dévolu au loisir ou est-ce que ça restera des lieux d'activité? Et quel type d'activité?
En fait, on travaille également avec Port de Paris sur cette question et il s'agit bien de trouver des endroits où il y a des activités fluviales hein, sur les berges dans Paris. Et à l'intérieur de ce projet, y compris d'ailleurs sur la rive gauche, le fait de rendre accessible le bord du fleuve fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir créer des nouvelles escales pour du transport de passagers réguliers. D'ailleurs, il y a le projet Vogueo qui est en train d'être étudié. Donc le projet va permettre d'avoir des nouvelles escales, va permettre aussi d'avoir des emprises pour de la logistique. On travaille avec Port de Paris sur de la logistique en temps partagé. Et par contre, le site pourrait être ouvert l'après-midi et le week-end, comme c'est déjà le cas, par exemple, au port de Tolbiac, dans le 13e arrondissement.
Je me souviens que c'était une vieille idée de Denis Baupin, du temps qu'il était adjoint au transport, je crois me souvenir. Il parlait beaucoup d'une nouvelle type de logistique qui arriverait par les fleuves. C'est une chose auquel vous pensez toujours?
Oui, c'est vraiment étudié par Port de Paris. Vraiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie volonté, je pense, qui est partagée, de développer. Après, il faut travailler la logistique en site urbain. Et là, aujourd'hui, les activités et des activités sont vraiment en train d'être étudiées très, très sérieusement en ville. Et puis, ce projet permet aussi l'amarrage de nouveaux bateaux.
Des bateaux phares, des bateaux pour danser?
Oui, en partie. Mais pas uniquement. Donc la vocation des bateaux fait l'objet de consultations, d'appels d'offres, qui est piloté par Port de Paris en collaboration avec la ville de Paris et la Pure. Et donc l'idée, c'est vraiment de diversifier les usages, les bateaux, comme déjà.
Par exemple,
en train
à part
opérés.
Les bateaux ludiques qui se sont multipliés maintenant.
Les bateaux hôpitaux.
Il y a un bateau hôpital, par exemple, il y a un hôpital de jour dans le 12e. Donc il y a des projets à vocation sociale, en tout cas des porteurs de projets aujourd'hui sur de ce type. Il y a des librairies aussi, il y a des porteurs de projets qui se manifestent.
Ah, vous faites des appels d'offres et les gens viennent avec leurs idées?
Exactement. En fait, Port de Paris laisse ouvert. Enfin, on discute de la vocation des bateaux en lien avec le projet, de façon à diversifier et à rendre plus attractif et que les activités aient lieu sur les bateaux.
Les mêmes ponts de Paris, mais cette fois dans la version à la guitare du guitariste de jazz Henri Crolla, 1956. On trouvera bien des documents sur le site voixsurberge.fr qui décrit précisément, site après site, les aménagements prévus. Il y a un numéro assez complet sur les questions de la Seine de Paris Projet qui fait l'objet d'un livre publié chez Textuel il y a 2 ans, 160 pages, 20 euros. Et on trouvera sur le site internet divers ouvrages sur l'historienne Bacouche, sur les traces du fleuve, votre dossier d'EDA, et puis un petit ouvrage que j'ai écrit moi-même, qui est à la gloire, excusez-moi, de Dominique Elba, du boulevard périphérique de Paris. Enfin, la gloire, on s'entend. Nous recevions le sociologue Patrick Baudry, puis sur le thème des voies sur berge parisiennes, Dominique Elba, Patricia Pelloux, Antoine Picon et Emmanuel Caille. La semaine prochaine, nous recevrons l'historienne Christine Vendredi-Ozano, qui vit au Japon, pour qu'elle nous parle d'Antonin Raymond, un archéologue d'origine tchèque, américain d'origine tchèque qui a introduit l'architecture occidentale au Japon dans les années 20. Et puis nous parlerons du récent lauréat du Pritzker Prize, l'architecte chinois Wang Shu, auquel cette distinction est remise vendredi. On entendra des propos de Wang Shu lui-même et les témoignages de l'architecte Hélène Reynard, du photographe Clément Guillaume et du critique Raphaël Magrou. Je vous rappelle que notre site internet offre divers services, adresses, bibliographies, calendriers, etc. et permet d'écouter l'émission pendant un mois, de télécharger pendant une semaine. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Métropolitain, une émission de François Chalin, réalisation Laetitia Coya, avec à la technique Dimitris Capolan, et dans un moment, Nicolas Truong et Agnès Chauveau pour les retours du dimanche.